Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission qui fait la part belle aux entreprises françaises. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir deux jolies innovations 100% made in France dans le secteur de la cosmétique. Cosmétique sain pour vous et pour notre planète. Je vous propose de découvrir tout à l'heure le parcours d'une femme incroyable, une nomade des temps modernes. C'est ainsi qu'elle se présente, originaire des vastes terres du nord du Tchad, qui a développé un élixir de beauté inspiré de ses rituels de beauté d'enfance. On en parle tout à l'heure, mais tout de suite, si je vous dis vernis bio, biosourcé, avec 78% d'ingrédients naturels tels que le blé et la canne à sucre, ça vous intrigue? Eh bien, on en parle tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes justement avec François Honoré du Mini Macaron. Bonjour François.
Bonjour, enchanté.
Enchanté également. Alors avec l'été, c'est vrai qu'on aime bien changer de vernis, mettre des couleurs un peu pop, un peu ensoleillées, qui appellent le soleil justement. Et alors chez Mini Macaron, vous avez développé un vernis bio à partir de blé et de canne à sucre. Expliquez-nous tout ça.
Oui, avec grand plaisir. Alors nous, le Mini Macaron, c'est une marque donc de vernis semi-permanent à faire chez soi. C'est vraiment l'intérêt de notre marque de manière très facile. On avait déjà une gamme classique jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on a décidé d'aller dans le bio parce qu'il y a une vraie demande et puis il y avait une vraie volonté de la part de l'entreprise de s'investir dans ce secteur. Et on a développé donc une formule à base de plantes qui respecte les ongles, qui aussi respecte la nature. Et aussi, le gros intérêt de cette gamme bio, c'est qu'elle s'enlève facilement avec un dissolvant sans acétone. Donc très facile, parce qu'on sait que le vernis semi-permanent, certaines fois, c'est un peu difficile à enlever.
C'est compliqué vraiment à appliquer parfois et très compliqué à enlever, c'est vrai.
Ça arrive, c'est vrai, tout à fait.
Et donc du coup, vous avez décidé de passer au bio. Alors combien de temps il vous a fallu pour développer ces nouvelles recettes?
Alors il a fallu à peu près, comme pour beaucoup de produits, il faut à peu près un an et demi, parce qu'il y a la phase donc de on réfléchit le produit, que ça soit au niveau marketing, que ça soit au niveau aussi technologique. Et donc on a développé avec nos designers, avec nos ingénieurs, toute cette gamme. Et puis aujourd'hui, on a pu le lancer enfin. On était au Pierre Event de Sephora, puisque c'est aussi vraiment un retailer avec lequel on travaille depuis longtemps. Et donc on était très fiers de pouvoir lancer la marque et lancer cette gamme qui va vraiment être un très beau lancement pour nous.
En tout cas, c'est très original. On se dit, ah, enfin un vernis, parce que le secteur de la cosmétique en général, mais surtout dans les vernis, bon, on a rarement des produits bio, rarement des produits, avec beaucoup d'ingrédients naturels. Là, 78%. Mais alors, qu'apporte le blé, la canne à sucre? Qu'est-ce que vous avez pu trouver d'intéressant pour justement fabriquer ces vernis à partir d'ingrédients naturels dans le blé, dans la canne à sucre?
Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup en fait de produits chimiques, vous voyez dans votre petite liste chimique, qui peuvent provenir justement de produits naturels. Et donc nous, au lieu d'utiliser des produits chimiques, on s'est intéressé à tous ces produits naturels qui peuvent aussi avoir leur place dans les cosmétiques et qui peuvent se substituer à des produits chimiques. Et donc on a cherché, on a trouvé dans la canne à sucre, on a trouvé dans du manioc, on a trouvé dans du blé, on a trouvé dans du coton. Et voilà, pas mal d'ingrédients qui permettent de se substituer à ces produits chimiques et aujourd'hui de pouvoir proposer un semi-permanent de qualité et avec des qualités particulières comme celle de s'enlever facilement.
Et au niveau des teintes alors, là aussi vous avez essayé de trouver des plantes naturelles?
Oui, alors au niveau des teintes c'est vraiment quelque chose qu'on travaille beaucoup, puisque forcément l'intérêt principal du vernis et du semi-permanent c'est d'avoir plein de teintes, plein de couleurs, pouvoir jouer avec la palette de couleurs. On voulait du bio mais quelque chose de fun, quelque chose de sympathique, parce que c'est vraiment le plus important. Et donc on a plein de teintes, donc là on a lancé 15 couleurs, on aura bientôt 80 couleurs, donc ça va vraiment être sympa.
Et 80 on a lancé couleurs avec que des produits d'origine naturelle?
Exactement. Et donc aujourd'hui, on est sur 15 couleurs, sur des couleurs plutôt pastel pour l'été, parce qu'on sait que c'est une tendance qui marche bien. Et selon les coloris, vous avez plus ou moins d'ingrédients naturels. Donc ça peut aller jusqu'à 80%, puis ça peut descendre jusqu'à 72%. Ça dépend des pigments qu'on utilise et ça dépend de la teinte.
Il y a une vraie demande hein, à ce niveau-là entre le « do it yourself hein. ». Donc, on fait tout à la maison, hein, on le voit bien aussi pour les shampoings, les soins pour les cheveux, même pour la peau. Ça, Ça fait combien d'années que vous avez pu observer justement cette demande de la part du public d'aller vers le do-it-yourself et de plus en plus vers ces produits à partir d'ingrédients naturels?
Alors, le do-it-yourself, c'est quelque chose qu'on voit depuis à peu près 2014-2015. C'est venu petit à petit. Il y a vraiment une volonté de faire soi-même ses cosmétiques, de faire soi-même beaucoup de choses. Ça s'est confirmé avec le Covid. Les gens étaient chez eux. Ils avaient envie, ils avaient du temps, ils avaient envie de faire des choses. Donc ça, c'est vraiment une première chose qui s'est vraiment développée. Et puis, le côté naturel, on va dire que c'est quand même quelque chose de très français. Parce qu'on voit, on vend aussi.
Ouais.
Ben oui, les Françaises ont beaucoup de goût et en plus, ont une... Donc, c'est vraiment quelque chose de sympa. Et on le voit sur d'autres marchés. Par exemple, on vend aussi nos produits sur le marché américain. Ils ne sont pas encore sur le bio. Eux, ils veulent vraiment des résultats très brillants, une tenue très, très longue durée. Aujourd'hui, le bio n'a pas de résonance chez eux. Au contraire, chez nous, les Français, on a cette appétence pour le bio, cette conscience. Et c'est quelque chose qu'on développe. D'ailleurs, le premier lancement, c'est sur le marché français. Après, on a des demandes en Scandinavie, on a des demandes en Allemagne. Mais on sent que la France a cette envie de le faire soi-même et d'avoir cette conscience.
Donc, pour le mini macaron, c'est d'abord le territoire français, continuer à se faire connaître, à offrir justement cette nouvelle gamme bio. Et ensuite, le territoire européen ?
Exactement. En fait, la marque, on l'a développée en France puisque c'est une marque française. On s'est après élargi, on est parti aux États-Unis, on est maintenant en Italie, en Espagne, en Asie. Mais aujourd'hui, le bio, enfin, tous les lancements de produits qu'on fait chez nous, c'est d'abord sur le marché français parce que c'est là où on a le meilleur retour. C'est là aussi où on a nos plus grands partenaires. Et du coup, nous, on continue avec ça. Et aujourd'hui, le bio, le lancement, c'est en France. Donc, on est très heureux de pouvoir proposer ça aux femmes françaises.
Et c'est fabriqué où d'ailleurs ? Dans quelle région de France ?
Alors, c'est fabriqué près de Paris.
En Ile-de-France.
Oui, et alors un peu plus large que l'Ile-de-France, un petit peu plus large. Mais oui, c'est fabriqué près de Paris. Et alors, il y a une partie après qui vient aussi des pays d'Europe. C'est pas que made in France. Il y a aussi des parties notamment sur l'assemblage, des choses comme ça, parce que les produits sont assez techniques. Il y a des lampes, il y a plusieurs choses. Mais aujourd'hui, on se rapproche de plus en plus de notre base d'origine. Alors que c'était pas le cas il y a quelques années, on était très porté sur l'Asie pour différentes raisons. Aujourd'hui, le bio,
le Covid a fait du bien en fait à beaucoup d'entreprises. On a dû revoir sa stratégie et les circuits courts, essayer de ramener un petit peu la production sur le territoire français ou européen.
Exactement. Non, exactement. Et puis, c'est vrai que nous, au Mini Macaron, on essaye d'être cohérent. C'est-à-dire que si on fait un produit bio, il faut aussi qu'on maximise les temps de trajet parce que ça n'aurait aucun intérêt d'aller forcément très loin. Donc, ça nous semble avoir quelque chose de complet. Et surtout, aussi, on a une boîte qui est tout est compostable, tout est lié, quoi.
Autre chose importante pour que nos auditeurs comprennent bien, parce que vous avez évoqué une lampe, comme c'est du vernis semi-permanent, une fois qu'on le pose, on doit mettre les doigts sous une lampe LED. C'est ça qui va permettre de sécher le vernis. C'est pour ça que vous avez évoqué cette fameuse lampe qui n'est pas entièrement fabriquée en France, si on a bien compris, mais en Europe, et qui vient compléter justement l'offre du mini macaron avec le vernis.
Exactement, vous êtes très très bien renseigné parce que vous connaissez bien le produit parce que c'est exactement ça. Nous, c'est du vernis sous des lampes qui va polymériser, c'est-à-dire qui va sécher les lampes, ça ne sèche pas à l'air libre. Donc, avec cette technique, ça va permettre au vernis de tenir plus longtemps, de moins s'écailler, d'être plus brillant. Donc, c'est vraiment une alternative au vernis classique. Et vraiment, avec le bio, on est sur une tenue un peu moins importante qu'avec un vernis semi-permanent classique. Mais par contre, je vous ai dit tous les avantages. Et aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé une bonne combinaison et on est très heureux de ça.
Merci beaucoup François Honoré du mini macaron. Merci beaucoup pour cet éclairage et bon dimanche à vous et bonne chance pour ce nouveau lancement bio.
Merci beaucoup.
Au revoir. Allez, on se quitte un court instant et on se retrouve juste après avec un autre parcours, un autre produit, mais là encore, made in France. À tout de suite.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission qui met en avant les talents, ceux qui savent innover. Et là, on est dans le secteur de la cosmétique avec une marque de beauté aux techniques millénaires. On en parle tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec Salwa Peterson. Bonjour Salwa.
Bonjour.
Alors, il y a tout juste 2 ans, vous avez lancé une gamme de soins capillaires. Alors, c'est assez étonnant parce que cette gamme de soins, fabriquée en France, est composée d'un seul et unique produit, un produit magique. Expliquez-nous tout ça.
Donc voilà, donc moi, mon produit donc, est une crème qui est infusée avec le chébé. Le chébé est une crème que nous utilisons au Tchad, mon pays d'origine, depuis des millénaires pour avoir des cheveux qui sont longs, forts et beaux. Je suis à la crèche de ma fille.
Ah oui, que... j'entends, oui. J'entends beaucoup, beaucoup de bruit derrière, plein de cris d'enfants, de joie.
Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, il permet d'avoir ses cheveux très longs. Et donc, cet ingrédient n'avait jamais été utilisé en cosmétique moderne.
Mais c'est quoi le chébé ? C'est un ingrédient, mais c'est à base de quoi ? C'est très intriguant, ça n'existe pas dans nos contrées.
Non, pas du tout, ça n'existe pas du tout en Europe. En fait, c'est une graine qui pousse en Afrique. Et surtout, donc, cette variété de chébé qu'on utilise pour le capillaire pousse dans une région très spécifique du Tchad. Ouais. Donc voilà, donc ce sont des petites graines qui sont toutes petites comme du poivre en fait. C'est ce qui se rapprocherait le plus, qui est aussi très épicé, très parfumé.
Et qu'est-ce que ça apporte alors justement aux cheveux ? Parce que ça, c'est vraiment le rituel, quoi, le rituel familial de votre enfance. Ouais. Qu'est-ce
Exactement.
Que ça apporte ?
Ça apporte aux cheveux de la force. Donc, ouais. C'est un ingrédient anti-casse redoutable. Et ça permet aussi d'avoir des cheveux qui sont plus forts. Ça gagne le cheveu. Donc, c'est pour le coup un ingrédient vraiment magique. Et donc, vous disiez tout à l'heure justement que moi, j'ai un seul produit qui était un choix. Donc, aussi de montrer aussi qu'en fait, on n'a pas besoin de 50 produits capillaires, qui est souvent le cas pour les femmes aux cheveux texturisés.
Ça va faire plaisir aux hommes qui nous écoutent. Comme ça, il y aura moins de produits dans la salle de bain.
Exactement, voilà.
Mais vous avez raison, parce qu'à chaque fois qu'on voit des publicités, notamment pour des personnes d'origine africaine ou maghrébine qui ont des cheveux frisés, bouclés, à chaque fois, il y a au moins 50 produits qu'on doit se mettre sur le visage, enfin sur les cheveux, pour obtenir la texture souhaitée. Et vous, vous dites, mais pas du tout, il suffit d'utiliser un seul produit.
Un seul, ou en tout cas quelques produits bien choisis, bien efficaces. Oui. Voilà. On peut donc avoir une routine simplifiée, ce qui est aussi bien pour la planète. Je pense qu'il y a suffisamment de waste, comme on dirait en français.
Oui. De gaspillage. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous êtes diplômée d'Harvard, de Paris-Sorbonne, vous aviez commencé une carrière dans le domaine du droit et puis pouf, tout d'un coup, changement de cap pour développer cette marque de produits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est venu le déclic ?
En fait, c'est plus changement de cap de la beauté vers le droit, puis retour aux origines. Parce que moi, comme vous disiez, donc le chébé, c'est vraiment l'ingrédient de mon enfance, c'est le rituel de mon enfance. Donc moi, j'ai vraiment grandi dans la beauté. Et ce que peu de gens savent, c'est que moi, j'ai lancé mon premier business il y a 20 ans, quand j'étais encore ado, et où en fait, j'avais un business à base de chébé déjà.
Déjà ?
Quand j'habitais au Tchad. Oui. Voilà, c'est ça. Et ensuite, je suis allée faire des études de droit et je suis revenue, et des études de commerce aussi. Et ensuite, je suis revenue à mes premiers amours quelque part.
Oui, d'accord. Mais alors après, une fois qu'on sait que le chébé, c'est quelque chose d'extraordinaire, il faut pouvoir l'adapter et en faire un vrai produit qui peut être vendu en nombre. Et donc ça, vous êtes venu, c'est fabriqué ici en France. Mais alors comment on met en place cette formulation de cosmétiques ? On va taper aux portes de différents bureaux de recherche et développement. Enfin, comment vous avez fait ? Vous avez cette idée en tête et comment faire pour le développer en France ?
Voilà, donc j'ai eu l'idée en tête. Moi, je me suis dit que ça allait être très facile. Je vais appeler des labos façonnés, ouais. On a d'excellents en France, de leur dire, voilà, moi, j'ai envie de créer un produit qui va être en soin sans rinçage et qui va faire ça, ceci, cela. Mon ingrédient star est le chébé du Tchad. J'appelle un labo, deux, trois, quatre, cinq, et au bout de dixième, qui me disent, mais on n'a jamais entendu parler de votre histoire de chébé. C'est quoi ? C'est le coton gratissimus, c'est le nom scientifique. Je me dis, ah zut, alors il faut que... Et il y a l'un d'eux qui me dit, écoutez, mademoiselle, j'ai la solution pour vous, il faut que vous nous fournissiez l'ingrédient. Sauf que ce n'est pas aussi simple. On ne peut pas juste ramener des graines de chébé du Tchad comme ça en France et en faire de la cosmétique parce qu'en France, ce qu'il faut savoir, c'est que la cosmétique, c'est le code de santé publique, heureusement d'ailleurs, donc qui est très, très réglementé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est, ça m'a pris 4 ans. Je vous la fais très courte. Donc, j'ai créé 4 ans, merci. Donc, j'ai créé de A à Z toute la filière depuis aller chercher les graines de chébé dans les montagnes du Tchad jusqu'à en fait qu'ils soient triés, parce qu'une fois qu'on a la matière brute, il faut la trier, il faut la nettoyer dans un atelier que j'ai mis en place avec des femmes que je paye 3 fois le salaire minimum local au Tchad. Et après, de le ramener en France, de le faire enregistrer, de le faire accepter comme ingrédient cosmétique, ça a été la croix et la bannière. Parce qu'il fallait faire des tests d'ADN, des tests de toxicologie. Enfin, c'était très long. J'avais des professeurs d'université avec lesquels j'ai travaillé, donc en Europe, en Afrique, qui ont fait des bibliographies infinies. Enfin, c'était très long. Et pendant 3 ans, on ne savait même pas si on pouvait effectivement l'utiliser comme ingrédient cosmétique.
C'est parce incroyable.
C'est assez incroyable. Ouais.
Et est-ce que vous savez si aujourd'hui, voilà. Oui, que vous avez su, que la persévérance a fini par payer et que vraiment vous l'avez pas lâché, hein, votre chébé. Mais est-ce que est-ce que par exemple d'autres travaillent avec cette graine aujourd'hui? Est-ce que du coup vous avez ouvert la voie à d'autres ou pour l'instant non? C'est vraiment encore quelque chose de très peu utilisé. Hein.
Bah, encore pour le moment, nous sommes les seuls qui aujourd'hui avons un produit qui est accepté par la réglementation européenne. Je le sais parce que comme je travaille très proche, pas forcément au bout de 4 ans, avec tout ce qui s'occupe donc de la réglementation, on travaille, je ne peux pas en dire plus, sur un autre produit donc pour compléter la gamme. Et quand je suis revenue, là récemment, ils m'ont dit « Ah, c'est encore vous, deuxième, Madame Chebe du Tchad. »
L'ambassadrice du Chebe.
Voilà. Alors, il y a des gens quand même, on retrouve des produits soi-disant qui sont des poudres de Chebe, mais en fait qui ne sont pas du tout réglementés. Donc, voilà.
Oui, donc là aussi, il faut toujours faire très très attention effectivement quand on achète ces produits cosmétiques. Alors, quel bilan vous dressez aujourd'hui? Donc, la première gamme a été lancée il y a 2 ans. Vous venez de nous raconter que ça a duré 4-5 ans à tout remettre en place, remonter la filière et vraiment faire en sorte qu'il y ait une vraie production suivie et que ce soit bien réglementé. Quel bilan vous dressez aujourd'hui? C'est quoi les prochains défis, Salwa, que vous allez devoir mener?
Le bilan d'abord pour commencer est quand même assez extraordinaire parce que aujourd'hui moi j'ai des clients dans plus de 40 pays. Et donc en fait c'est vraiment le côté global du Chebe auquel je m'attendais pas. En fait c'est pour tellement de gens, y compris en fait une bonne partie de gens qui n'ont pas les cheveux ni bouclés, ni frisés, ni crépus, l'utilisent. Et puis aussi on a reçu une quantité incroyable de presse. Il y a quand même le Vogue américain qui est le plus noble des magazines au monde qui est venu au Tchad avec moi dans les montagnes et où j'ai pu raconter toute l'histoire, qui ont rencontré toute ma famille, les femmes.
Qu'à l'âge de 15 ans, c'est votre arrière-grand-mère au Tchad qui vous a appris et tout ça, quoi. Ils ont vraiment
fait
le retour aux origines.
Le retour aux origines et pour moi c'était un voyage très émotionnel. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup parce qu'on était tellement dedans, mais avec le recul je me dis c'était quand même quelque chose en fait. Ce voyage de revenir au retour, de leur raconter la maison en fait de mon enfance, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais.
Mais alors qu'on n'a pas dit, c'est qu'entre temps vous êtes passé par le groupe L'Oréal. Donc c'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui c'est important ça.
Et c'est important.
Et ce passage dans le plus grand groupe de cosmétiques au monde, le groupe L'Oréal.
Numéro 1 du haircare.
Et voilà, exactement. Donc ça a été une belle expérience. Bah écoutez, en tous les cas, il faut le dire, vous avez des articles partout aujourd'hui, dans les Elle Magazine, dans O Vogue. Donc ce Chebe, vous avez réussi à l'imposer. Et si j'ai bien compris, il y a un nouveau produit qui va bientôt sortir. Donc,
très bientôt.
Voilà. Et on vous souhaite beaucoup, beaucoup de chance pour la suite. Longue vie au Chebe.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et finalement, à tous ces rituels de famille qui, grâce à vous, on le connaît un peu mieux, ce rituel, et on peut nous aussi en profiter. Voilà, on sait innover dans le secteur de la cosmétique cheveux.
Exactement. Merci beaucoup.
Merci à vous, Salwa Peterson. Je rappelle que vous avez créé cette marque éponyme, Salwa Peterson, à partir de Chebe. Eh bien, bon dimanche à vous. Et encore merci pour ce témoignage. Au revoir.
Merci, au revoir.
Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter.
Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vous présente
Sud Radio Cessa-la-France avec Thibaut, le French Trotter.
Et nous retrouvons Thibaut, notre French Trotter, qui revient tout juste du village de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, où vous avez visité une entreprise qui participe au maintien du patrimoine provençal.
Ah, c'est ça, il s'agit de la ciergerie des Prémontrés. Qui est la dernière manufacture artisanale de Provence à fabriquer des bougies selon les procédés du XVe siècle. On y pratique notamment la technique de fabrication de bougies dites à la louche, qui est un peu, si vous voulez, la haute couture du cierge. Allez, je vous propose tout de suite de découvrir l'histoire très riche de cette entreprise avec Stéphane Richard, qui est son gérant.
La ciergerie est née en 1858 à Tarascon, à l'abbaye des Prémontrés, dans le massif au-dessus de la Montagnette. et elle a commencé à fabriquer des cierges, notamment pour le Vatican. Et puis au fur et à mesure des années, elle a développé tout un savoir-faire autour de la cire, et maintenant elle fait beaucoup plus que des cierges, elle fait aussi beaucoup d'objets en cire.
Par exemple, là, je vois plusieurs objets qui sont en face de moi, on peut les décrire ?
Oui, tout à fait, on va trouver des objets d'inspiration religieuse, hein, comme des vierges, des sacrés-cœurs, des ex-voto, et puis beaucoup d'autres choses différentes. Par contre, toujours beaucoup de couleurs, hein. Il faut se rappeler que l'église était très colorée avant.
Je vois une collection de vierges qui sont notamment vertes, bleues, jaunes, oranges.
Ah oui, c'est devenu, on fait des dizaines de couleurs différentes, hein. On est devenu une espèce de spécialiste de la couleur avec la cire.
Et je crois savoir que votre savoir-faire, il vous a été transmis par les Pères Blancs, fondateurs de l'entreprise, de la manufacture.
Tout à fait, c'est eux qui nous ont appris, notamment vous allez le voir tout à l'heure, et écouter aussi la partie fabrication de cierges selon à la louche, hein, comme au Moyen-Âge. Hein, c'est eux qui nous ont transmis cette technique, et aussi la méthode au trempage, hein, qu'on voit notamment à Lourdes. Qui existe encore dans quelques manufactures. Mais on est les derniers à faire du cierge à la louche. Oui. On est assez fiers de transmettre cette culture venant du Moyen-Âge.
Il y a plusieurs techniques.
Alors si j'ai bien compris, il y a plusieurs techniques principales pour fabriquer ces cierges.
Ouais, c'est ça. Alors pour résumer, il y a un procédé de fabrication par trempage pour créer des bougies assez fines. Il y a aussi le moulage qu'on n'a pas évoqué pour créer des statues de cire. Et enfin, il y a cette fameuse technique à la louche héritée du Moyen-Âge et qui permet d'obtenir des cierges de très grandes dimensions. Mais le mieux, c'est d'écouter Greg, qui est maître cirier, qui va nous en révéler tous les secrets.
Alors on commence par tremper la mèche et après on la suspend sur le cerceau.
On la trempe dans quoi ?
C'est de la cire avec de la cire d'abeille. Okay. Et du pigment.
Cette cire est chauffée, elle est chaude ?
Oui, chauffée au bain-marie.
Elle a quelle température à peu près ?
70-75 degrés à peu près. Alors ça c'est la mèche qui va brûler quand vous aurez la bougie.
On voit la mèche.
Là on va la tremper.
Donc on la trempe
dans ce mélange de cire, cire d'abeille et le pigment naturel. Là c'est de l'ivoire liturgique, c'est la couleur des églises. On va la suspendre là, vous allez voir.
Donc on a un cercle métallique là qui est en suspension, sur lequel on a attaché la mèche.
On peut en mettre jusqu'à 25 selon les diamètres.
Étape suivante.
Alors après vous prenez la louche.
On est en train de verser la cire.
Faites plusieurs passages jusqu'à ce qu'il devienne gros comme ça et chaud. Ça
veut dire que voilà, j'ai une espèce un petit boudin de cire qui est encore souple.
Voilà. Donc là, maintenant, il faut attendre que ça refroidisse pour que ça devienne dur comme à côté et pouvoir repasser des couches. À la fin, je me sers de ce calibre.
D'accord.
Parce que là, je vais les retourner après. Bon, parce que là, on est loin du diamètre encore. Donc après, je les retourne et je recommence par le bas à les regrossir et à la fin, je finis par passer le calibre.
Pour vérifier que c'est le bon calibre.
Voilà, que tout est à la bonne taille. Vous voyez, on a différents calibres.
Le calibre, c'est un cercle métallique tout simple qu'on va passer à travers la mèche en cire. On fait combien de passages pour obtenir le diamètre définitif ?
On met 3 jours minimum pour faire une grosse.
3 jours minimum ?
Pour faire un cierge comme vous avez là, il faut 3 jours à peu près.
3 jours.
Et oui, les auditeurs peuvent bien évidemment assister à la fabrication de ces cierges in situ, hein, Thibaut.
Ah oui, c'est possible. La ciergerie est ouverte à la visite. Tous les renseignements sont sur ciergerie.fr. Et je précise qu'il s'agit d'une EPV, entreprise du patrimoine vivant.
Une deuxième raison pour y aller.
Deuxième raison pour y aller.
Merci beaucoup, Thibaut, pour cette visite.
À la semaine prochaine, Nathalie.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Vous a été présenté par le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur.
On arrive à la fin de cette émission. Pour les nostalgiques, vous pouvez bien évidemment la retrouver en replay sur sudradio.fr. Allez, bon dimanche à tous.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.